Chapitre 4. Cela fait des semaines que je revis la terrible épreuve de mon arrestation, de ma déportation, de mon évasion et de ma traque dans la campagne allemande. Un hiver, un printemps, un été, un automne pour retrouver mes montagnes, ma maison, les miens. Ce n'est pas si facile de prendre la plume pour raconter mes souffrances, mais m'apaiser par la certitude d'être arrivé au bout des épreuves. Pour tout dire, j'ai perdu le sommeil. Mes nuits sont hachées, peuplées de cauchemars, et je ne parviens à retrouver quelque repos réparateur qu'au petit matin. À l'heure où j'avais coutume de me lever, je sombre désormais dans des rêves moins angoissants. Ma nature m'interdit de me plaindre, et ce, d'autant moins que je conserve en mémoire, comme un inestimable trésor, les visages de tous ceux qui se sont sacrifiés pour moi. Les reverrai-je dans l'au-delà, mes camarades de combat tchèques, Janosch, ou mes amis allemands, Bismarck, reverrai-je même Reinhardt, auquel je pardonne tout, alors que je sais à présent sa férocité, son inhumanité, son fanatisme. Roger Masson, avec cette maîtrise et cette élégance qui n'appartient qu'au grand de l'espionnage, ne m'a pas soumis, dès mon retour, à ces interrogatoires par lesquels les gens des services secrets accueillent les transfuges et les officiers rescapés de leur mission. Il m'a seulement dit de me reposer, de noter tout ce qui me semblait important, de retrouver une vie normale, et enfin, lorsque tout serait remis en ordre dans ma tête, de venir le voir. « La Suisse n'est pas en guerre », m'avait-il expliqué. Ce qui veut dire que nous possédons ce luxe rare dont je compte vous faire profiter, le temps. S'agissant de vous, de ce que nous vous devons, l'important est que vous puissiez témoigner de ces événements capitaux et que nul ne puisse mettre en cause la véracité de votre histoire. Sur le coup, j'ai mis cette discrétion et ce recul sur le compte de la bonne éducation, mais aujourd'hui, et sans remettre en cause les bons sentiments de Roger Masson, je sens bien qu'il y avait autre chose. Il y a 2 jours, en effet, un extraordinaire événement est survenu. Les Anglais et les Américains ont débarqué en Normandie. L'armada, la plus gigantesque qui ait jamais été rassemblée, a franchi la Manche et a jeté sur la côte, à l'assaut du mur de l'Atlantique, des centaines de milliers de soldats angoissés, sans autre choix que la mort ou la victoire. Les Allemands, pas plus fiers, mais se croyant inexpugnables, résistent, mais déjà le front cède sur plusieurs endroits stratégiques. Des colonnes entières sont entrées dans les terres et la radio suisse annonce que les redditions se multiplient. Je suis prêt à parier que cette fois, ils ne repartiront pas en Angleterre et que ce sont en revanche les Allemands qui vont connaître les affres de la retraite. J'écris tout ceci alors qu'un coup de téléphone m'a annoncé, voici une heure, une visite de la plus extrême importance, une visite d'Allemagne. Le voici précisément, mon visiteur, ou plus exactement, ma visiteuse. Je la reconnais et nous tomberons dans les bras l'un de l'autre. C'est mon amie Sophie, la secrétaire de la mission économique suisse à Munich. Son passeport de service lui permet de passer les frontières sans difficulté, et notamment celle de la Confédération, qui fait l'objet de toutes les attentions, de part et d'autre. Nous restons un long moment ainsi enlacés, pour la première fois depuis que nous nous connaissons. Lorsque nous relâchons notre étreinte, je sens mes yeux se mouiller, mais là le bon goût de feindre de ne pas s'en apercevoir. Apparemment, Sophie sait tout de mes tribulations, et je ressens de nouveau cette sensation d'avoir été le jouet de quelques manipulations. J'ai l'impression étrange d'avoir été mené sur les flots comme un bois mort, happé sur la grève et emporté par une vague irrésistible. Je m'apprête cette fois-ci à lui en faire la remarque, mais je n'en ai guère le temps, car très vite, elle en vient à l'objet de sa visite. Je sais vos liens avec l'amiral Canaris, probablement moins étroits que ceux tissés avec Heydrich, mais croyez-moi, ceux-ci sont autrement plus francs et porteurs d'espérance. Reinhardt, je reste sur le moment troublé par l'évocation du nom de mon ami, et bien des souvenirs rejaillissent en un instant. Sophie ne sait finalement pas grand-chose de nos relations. Je me ressaisis. L'espérance, croyez-vous qu'en juin 1944, le mot soit tellement approprié pour évoquer la situation des pays européens, et singulièrement du vôtre? Oui, je le crois, mais pour s'en convaincre, il faut réaliser de quelles horreurs nous sommes submergés. L'Allemagne a perdu son âme, Gottfried, et apparaît désormais titubante et incertaine, prisonnière qu'elle est d'une bande de fanatiques, de bourreaux, d'assassins, les pires qu'elle ait jamais connus. En silence, j'opine d'un léger mouvement de la tête. Le débarquement sonne enfin l'heure de la révolte. La Wehrmacht, pour n'avoir pas su rejeter à la mer les GIs américains et les commandants britanniques, a perdu la guerre. Rien n'y changera, et pour une raison très simple. Nous avons perdu dans le Caucase, en Roumanie, notre approvisionnement en pétrole, et dans la guerre que nous menons actuellement, cette carence est définitivement fatale. Je comprends qu'il me récite une leçon, celle que Canaris et quelques autres lui ont apprise. Mais peu importe, cette analyse est fondée et c'est tout ce qu'il faut retenir. Les mêmes causes qui ont provoqué l'effondrement des Français en 1940 se retournent contre nous. Aujourd'hui, Guderian s'appelle Patton et rien n'arrêtera ce monstre de guerre dans sa ruée irrésistible. Surtout que Joukov et Koniev ne restent pas les bras croisés. Oui, et avec la haine en plus, les atrocités des nazis en Russie, la persécution inhumaine des populations entières, l'extermination de prisonniers de guerre soviétiques, tout cela va se payer très cher, et ce sont les Allemands qui paieront. Ils ne l'ont pas totalement volé, sans doute, mais il n'est que temps d'arrêter le massacre. Il faudrait commencer par se débarrasser de Hitler. J'ai dit cela comme une boutade, mais Sophie ne le prend pas comme tel. Elle me fixe gravement et me rétorque. C'est précisément pour cela que je suis venu ici. Nous allons effectivement nous en débarrasser, définitivement. Devant ma mine ahurie, elle se dépêche d'expliquer. Un certain nombre de généraux réalisent que la guerre est perdue. Parmi eux, Canaris et Rommel, des noms qui en imposent, et ce n'est pas sans importance. Il n'y a plus qu'une seule voie, en appeler aux alliés, et singulièrement aux Américains, et réussir là où Guillaume II a échoué en octobre 1918. Une paix séparée, à défaut d'être général, car il est douteux que Staline veuille cesser aussi vite le combat. Vous me suivez ? D'autant mieux que je partage cette évaluation. Tout le problème est d'apprécier comment, où et quand affronter Hitler. Je dirais même plus, qui aura ce courage ? Ceux dont je vous ai parlé sont résolus et aucun ne reculera. Mais je ne vous étonnerai pas en vous disant que tout ceci relève du secret le plus absolu et que par conséquent, j'ignore ce qui a pu être décidé ou ce qui le sera. En revanche, et c'est là où vous intervenez, il y a un préalable au déclenchement de l'action. Je la vois venir, mais je me tais. Il est indispensable de connaître exactement et fermement la réponse des alliés à une proposition de cesser le feu qui serait faite par un certain nombre de généraux ou de personnalités civiles. Vous comprenez bien qu'il n'est pas possible de lutter sur deux fronts, contre Hitler à l'intérieur, contre les armées de la coalition à l'extérieur. Il faut donc un message crédible, mais en même temps extérieur au débat, ce qui veut dire porté par un non-allemand, de façon à le désavouer si les choses tournaient mal. Je formulerai différemment. Si la maîtrise de la situation nous échappait. Mais il y a plus important encore. Alan Dulles, le patron de l'OSS à Berne, juge l'initiative de ses officiers judicieuse et opportune, et à titre personnel, il la soutient à fond. C'est lui qui nous a fait cette remarque judicieuse que ce dossier devrait être plaidé à Washington et qu'en conséquence, aucun Allemand ne pouvait en être chargé. Il est allé plus loin encore, en avançant votre nom. Mon nom ? Mais il ne me connaît pratiquement pas. Il faut croire que si, apparemment, il en sait très long sur votre compte, et ce n'est pas un certain Roger Masson qui a pu le contredire. Je vois. Mais puisque Roger Masson a si bien parlé de moi, vous a-t-il dit que je suis revenu dans mon équipée tchécoslovaque en mauvais état et surtout avec la ferme résolution de ne plus me mêler des affaires du monde ? Oui, nous savons tout cela. Nous mesurons combien cela vous sera pénible et douloureux même de reprendre des activités, disons parallèles. Mais personne n'y peut rien. Aucun autre messager ne sera plus crédible que vous. C'est pourquoi je vais ajouter ceci. Alan Dulles s'engage sur l'honneur à vous épargner toute investigation sur les opérations de votre banque, sur l'origine des fonds, les montants des dépôts, les transactions qui les ont précédées, ainsi que toute autre affaire liée à votre activité professionnelle. Il vous promet sa protection et vous donne quitus général de tout ce que les esprits mal intentionnés pourraient venir vous reprocher.
Quelqu'un aurait-il eu vent des dépôts d'Adolf Hitler ? Ou de ces malheureux juifs dont j'imagine qu'ils pourraient avoir péri dans les atroces conditions que j'ai connues ? Probablement pas. Mais le secret les mieux gardés ont leur faille, qu'il n'est pas indispensable de mésestimer. Je me fais évidemment rassurant. Je n'ai rien à me reprocher, et si je peux me permettre, nous sommes en Suisse. Je le sais, mais votre amitié avec Heydrich n'est pas passée inaperçue. On dit même que vous avez rencontré Himmler et Hitler plusieurs fois. Même si vos épreuves témoignent pour vous, rien ne dit qu'un jour, on ne puisse venir vous reprocher ces relations. Je crois donc que la protection d'Alan Dulles et de l'OSS n'est pas à dédaigner. Évidemment, la protection de l'OSS vaut mieux que son acharnement. Je dois y réfléchir, et je lui fixe un rendez-vous pour demain matin. Dès le départ de mon ami, j'appelle Monica. Le téléphone sonne, elle décroche. À l'autre bout du fil, une voix familière, celle de ma partenaire, ma complice, qui joyeusement me congratule. « Félicitations, mon cher. Vous allez faire un grand voyage. Comment ? Vous êtes au courant ? Oui. Et Masson ? Voyez-vous, Gottfried, nous avons jugé plus prudent de vous envoyer Sophie comme ambassadrice. Il ne faut pas que vous sortiez d'une entrevue avec le colonel et que vous alliez aux USA. ce serait par trop compromettant pour notre sacro-sainte neutralité. Je réfléchis. Il y a autre chose. La teneur du message, bien sûr, sacré maçon, c'est lui qui, ne pouvant pas par prudence ou par décence parler directement de ces choses, a préparé l'intervention de Sophie. Et il a dû faire cela par Monica interposée. Par ailleurs, et c'est parfaitement la reconnaissance et l'amitié que j'éprouve pour la sœur du pasteur Bonhoeffer, autant d'atouts qui pèseront favorablement lors de ma prise de décision. Me sentant dubitatif, Monica s'empresse d'ajouter, en faisant écho à mes propres pensées. « Crois-moi, Gottfried, ce projet a tout son soutien, mais il s'agit ni plus ni moins que de... Enfin, tu comprends bien que compte tenu de sa position et des circonstances, il ne peut aucunement t'en parler et encore moins être impliqué, de quelque manière que ce fût, dans cette opération. » « Oui, dis-je, je comprends. Et quand suis-je censé partir ? Nous partons dans 2 jours. Nous ? Oui, notre ami a jugé bon de me proposer de t'accompagner. Si tu es d'accord, bien évidemment. Bien sûr, cela va nous rajeunir de quelques années. » Et voilà, Honorius avait encore vu juste. Je vais effectivement faire un long voyage. Le lendemain, je revois Sophie pour lui faire part de ma décision. Elle se réjouit sincèrement de ma participation et vient aux modalités pratiques de mon intervention. De Suisse, je vais dans un premier temps gagner le Portugal, autre pays neutre, et de là, l'Amérique. Ils ont choisi de me faire éviter l'Angleterre, ou tous ceux qui y ressemblent, car l'initiative des généraux allemands ne sera pas vue d'un très bon œil du côté de Downing Street, où règne, bien plus souverainement que le roi George VI, un certain Winston Churchill, le vieux lion qui succède au tigre dans le rôle de l'ennemi juré du Reich, second ou troisième, n'a pas digéré les bombardements de Londres, ni les scènes d'horreur générées par les V1 et les V2. Et s'est juré de le faire payer très cher à l'Allemagne entière, il a commencé de le faire en allant écraser Dresde sous les bombes. Il n'y a aucune chance qu'il lâche le gros morceau de viande qu'il tient. Il fera même tout pour saboter une éventuelle négociation. Sophie reprend. Cela vous prendra 2 jours pour aller à Washington. Vous y êtes attendu et Dulce s'y trouve déjà. C'est vous dire si nous travaillons de concert. Je suppose que vous avez un mémorandum à me remettre. Ce serait trop dangereux. C'est Dulce qui se charge de cette partie du programme. En fait, il en sait plus long que vous. Alors, à quoi vais-je servir? Il n'y a pas de bon dossier sans bon négociateur. Vous saurez trouver les mots pour convaincre William Donovan et l'état-major de l'OSS de l'enjeu énorme, planétaire, que représente la négociation et le retour d'une Allemagne démocratique pour contrer le nouveau danger que représente l'Union soviétique. Car vous en êtes convaincu, c'est de ce côté que se fait jour à présent la menace. C'est la paix du monde, pour le siècle à venir, que nous remettons entre vos mains. Franchement, si je ne la connaissais pas, je trouverais la formule un tantinet grandiloquente. Mais je n'ai plus la force de discuter. Je me demande bien plus simplement si j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout. La mission que me confient les amis de Sophie est lourde, d'un poids que je n'ai jamais ressenti jusqu'à présent. La conjuration qui a permis l'élimination de Tukhachevski, la manœuvre précipitant le voyage de Hesse, ne représentait que peu de choses comparées à un complot qui aurait pour finalité de faire disparaître le Führer. Que ne donnerais-je pour un séjour illimité en montagne, dans les bras d'Hélène, de Lénie ou de ma chère Isabella? Comme s'il n'attendait que mon assentiment, les événements s'enchaînent à toute vitesse. Si la libération d'Isigny, de Bayeux, la tête de pont dispose d'un port artificiel et d'une piste d'envol. Comme il n'y a plus ou presque plus d'aviation allemande, la position est inexpugnable. Je connais les Français. J'imagine les cartes placardées au mur avec les petits drapeaux qui représentent l'évolution des combats. De combien de morts chacun d'eux est-il payé? Ce massacre inutile, comme le sont toutes les hécatombes, n'épargne sans doute pas les populations civiles, mais ceci n'est que le cadet des soucis des hauts commandements, et surtout pas du quartier général du Führer, le célèbre Wolfschanze, la tanière du loup, quelque part dans une forêt de Prusse orientale, au sud de Königsberg. Alors, dans ces conditions, que des paysans ou des ouvriers français payent à l'Allemagne le tribut de leur libération, cela paraît bien normal, un homme qui a ordonné l'extermination de races entières. Les combats vont se poursuivre. Peut-être même, faut-il qu'à son tour, l'Allemagne soit envahie, sa population confrontée à des uniformes étrangers et ses villes détruites. Cela servira à ancrer dans la mémoire collective ces horreurs que les Français, les Belges, les Polonais ou les Yougoslaves ont connues à 2 reprises. Mais pour indispensable qu'elle soit, la leçon ne doit pas aller trop loin et l'Allemagne doit préserver son avenir. Est-ce possible? Avec Hitler, sûrement pas. Sans lui, sans doute. Dès le surlendemain, je gagne l'aéroport de Kloten à Zurich et je prends place à bord d'un DC-3 américain de la Pan Am, la Swissair ayant suspendu ses vols depuis août 1939. Les deux gouvernements de Berne et de Washington ne voient que des avantages à cette liaison qu'empruntent pêle-mêle diplomates, hommes d'affaires et agents secrets. Je pars seul, ma destination est Lisbonne. Décidément, la Suisse, le Portugal, j'écume les nids d'espions. Il ne manque plus que Tanger et Istanbul pour un tour complet de ce monde interlope. Dans la capitale portugaise, mon escale n'est que de quelques heures. Lorsque je monte dans un Douglas quadrimoteur, le fameux DC-4, je passe devant Monica, sagement assise, dans les premiers rangs, et vais m'asseoir juste derrière. Mon voisin, un Américain aux cheveux ras, me salue d'un bref mouvement de tête. Ce que j'ignore, en revanche, c'est qu'il s'agit de mon garde du corps, une préoccupation fort utile, s'agissant d'une personne subitement devenue précieuse. Allen Dulles ne laisse réellement rien au hasard. C'est mon premier vol transatlantique. Je me suis rendu déjà à New York, à bord du paquebot Normandie. Un voyage dont je conserve un souvenir enchanteur sans mélange. La rapidité de ce nouveau moyen de transport est telle qu'une douzaine d'heures seulement après avoir quitté le sol de l'Europe, le DC-4 se pose sur celui de l'Amérique. L'accueil est cette fois ouvert et chaleureux, quoique discret. Deux hommes nous attendent au pied de la passerelle et nous escamotent promptement. La mission américaine commence. Nous reprenons un autre avion, plus petit pour Washington. Le temps de nous changer à l'hôtel, afin de nous rendre plus présentables, et nous sommes bientôt confrontés aux négociateurs américains. La délégation US est conduite par William Donovan en personne. Dulles est à ses côtés. Les deux autres négociateurs ne nous sont pas présentés. Manifestement, ils appartiennent au département d'État. Ces derniers sont muets comme des carpes, mais notent avec application les propos échangés. Je finis par oublier leur présence. Sans surprise, les Américains connaissent le sujet de ma démarche. Nous pouvons donc passer rapidement aux questions essentielles. Qui, comment, quand? Je confirme que le projet de renverser Hitler est porté par les officiers généraux qui comptent le plus en Allemagne en raison de leur passé, de leur réputation et de leur popularité. Leurs noms ne déplaisent pas à nos vis-à-vis qui s'inquiètent seulement de leur aptitude à monter une conspiration, tâche aussi délicate que dangereuse. Le danger ne compte pas pour ces hommes qui ont si souvent risqué la mort. Quant au montage proprement dit de l'opération, nous disposons, en la personne de William Canaris, du meilleur spécialiste qui soit en coup tordu. C'est un homme réfléchi, prudent, qui ne s'engagera pas à la légère dans une entreprise hasardeuse. Mais vous devez comprendre que, précisément, il n'agira qu'avec de solides assurances de votre part, car il ne suffit pas de renverser Hitler. En l'exécutant? En l'exécutant, comme vous le dites si justement. Il faut que sa disparition soit admise par les Allemands. Même en faisant la part des fanatiques, comme ceux des divisions de la Waffen-SS, nombre de gens seront portés à considérer toute entreprise visant à éliminer le Führer comme un acte de trahison. Ce qui rend très compliqué la gestion de la crise qui, inévitablement, s'ouvrira. Seule une grande décision, comme la cessation des combats sur le front Ouest, peut nous apporter une adhésion massive. Or, nous savons bien que les Alliés ont fait de la capitulation sans condition leur credo. Et cela, personne, je le dis bien personne, n'y consentira. Je crois avoir clairement posé le problème. Mes interlocuteurs m'en donnent acte. C'est le moment que choisit un grand jeune homme blond, un des deux assistants, pour intervenir. J'éprouve quelques difficultés à le comprendre, tant son accent texan est prononcé. Je me tourne vers Monica, qui a un geste d'impuissance, pendant que je surprends les trois autres Américains, très white anglo-saxon protestant, échanger un sourire complice. Pourtant, ce que dit Bill, c'est son prénom, n'est pas inintéressant, loin s'en faut. L'ennui dans notre affaire, c'est l'intrusion des politiques. Je suis convaincu que si elle se traitait entre professionnels, nous la résoudrions aisément. Ce n'est pas si difficile d'échanger la mort d'Hitler contre l'aménagement d'une paix séparée avec l'Allemagne. Ce ne serait d'ailleurs que l'anticipation de ce qui nous attend à terme, la confrontation avec Staline. D'ailleurs, le général Patton ne pense pas autrement. C'est précisément ce pourquoi il veut foncer vers l'Est, pour couper l'herbe sous le pied à Joukov. J'objecte. Mais Eisenhower entend le ralentir, bien au contraire. Bill sourit de ses grandes dents écartées. C'est bien ce que je dis. Ce sont les politiques qui nous gênent. Churchill avec sa folie de vengeance, Roosevelt avec sa naïveté vis-à-vis de Staline, et Eisenhower est bien davantage un politique qu'un stratège. Sur le terrain, là-bas, en Normandie, c'est Bradley qui fait tout le travail. Je n'ai aucune opinion sur ce que vient de dire le grand jeune homme, mais il me faut rentrer en Europe avec une réponse ferme. Je doute fort que les généraux allemands se contentent d'une vague formule de soutien pour se lancer dans ce qui serait le coup de force le plus audacieux de la guerre. Je le dis sans embâche et, poursuivant sur ma lancée, je commente. Permettez-moi de déplorer que tout ne soit pas fait pour mettre un terme à la tuerie, car ce ne sont pas seulement des soldats qui tombent de part et d'autre. Bien d'autres victimes meurent chaque jour, des civils, des innocents, des femmes, des enfants, dans des conditions effroyables. Croyez-moi, j'en sors. J'ignore si cet argument emporte l'assentiment des Américains, mais après un bref conciliabule, Donovan, qui s'exprimait rarement jusqu'alors, conclut avec autorité. « Vous avez raison, il faut en finir. J'accepte votre proposition et vous autorise à faire savoir qu'un nouveau gouvernement allemand obtiendra des conditions d'armistice équitables. » Il a dit deux choses capitales. D'abord, « obtiendra » et non « obtiendrait » et ensuite, « conditions d'armistice » et non « capitulation ». Comme toujours, dans le langage diplomatique, ce sont ces détails qui importent et qui, dans notre situation, font le succès de notre ambassade. Nous ne pouvons pas aller plus loin et comme le temps presse, nous reprenons le train pour New York. Sur le chemin du retour, plein d'une confiance nouvelle, nous avons tout loisir de mieux prendre conscience de l'investissement complet des États-Unis dans la guerre. Partout, dans les gares que nous traversons, sur les routes que nous découvrons depuis notre wagon, tout nous rappelle que l'Amérique s'est engagée dans une croisade sans précédent pour elle. J'imagine que la France de la Révolution devait ressembler à cela, quand les femmes cousaient des uniformes, quand les enfants forgeaient des piques, et que selon la formule fameuse, les vieillards se faisaient porter sur les places publiques pour exhorter la nation à défendre ses frontières. Monica, étant française, doit ressentir plus que moi cette exaltation, apanage des grands peuples. Quel dommage que l'admirable sentiment collectif qui submerge les âmes jusqu'au sacrifice suprême ait été détourné, trahi et confisqué par une cause aussi méprisable que celle du nazisme. Sans doute me suis-je moi-même approché trop près de la flamme impure et y ai brûlé mes ailes. Désormais, le remords ne me quittera plus de ce que j'avais ressenti à l'époque. À la vérité, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai applaudi, prodigué des encouragements peut-être, apporté mon soutien involontaire, assez médiocre, assez complexé. L'un kleptomane, un autre boiteux, l'un halluciné et l'autre impuissant. J'aurais dû dire à Reinhard Heydrich, mon ami, qu'il faisait fausse route. J'aurais dû persuader Magda Goebbels que son mari n'était qu'un nain haineux. J'aurais dû, entre deux étreintes, détourner Leni Riefenstahl de l'idée de glorifier cette idéologie méprisable. Mais je n'ai réagi qu'en compère, en complice, et par ma présence, mes sourires, mes propos peut-être, je me suis fait tout seul criminel. Je ne résiste pas à cette confession, à voix haute, que Monica corrige gentiment. « Non, criminel n'est pas le mot qui convient, me dit-elle, avec la force de l'amitié qu'elle me porte. » Elle m'explique que j'ai payé avant même que l'addition ne me soit présentée, que je n'ai pas négligé les occasions de me racheter, ni même d'aider dans leur combat, perdu d'avance, les opposants à Hitler. Heureusement, avais-je pensé alors qu'elle ignore la complexité de mes tractations financières avec le Führer. Mais, à y bien réfléchir, c'est peut-être le seul moment de ma vie avec les nazis où je n'ai fait que mon métier de banquier. Finalement, et cela compte pour moi, Monica m'absout. Il était temps, nous voici dans l'avion. Je ne conserve aucun souvenir du voyage de retour. Bien que copieusement secoué dans le DC-4, qui a dû traverser tous les trous d'air entre les deux continents, je dors du sommeil du juste, la conscience apaisée du message d'espoir que je vais transmettre à mes mandants. Comme à l'aller, nous faisons escale à Lisbonne. Effet inattendu de cette équipée conspirative, je me sens observé, sinon suivi, alors que Monica, sereine et détendue, m'arrivaute gentiment avec son vieux complice. Cette fois, c'est à Genève que nous rencontrons les deux envoyés des conspirateurs. Ce doit être une habitude que de converser par couple, car ce sont un homme et une femme qui nous attendent à proximité du jet d'eau. Sensiblement plus jeunes que nous, ils dégagent une impression d'aisance aristocratique à 100 lieues de la raideur insolente des officiels nazis. Leur langage, policé, fleure encore l'université, et je ne me sens pas assuré de leur professionnalisme. Nous leur délivrons cependant le message, insistant sur la nécessité de ne rien tenter qui ne soit assuré du succès, afin d'éviter qu'un putsch manqué ne permette à Adolf Hitler de remobiliser une nation qui ne croit plus guère à la victoire et ressent chaque jour plus cruellement les bombardements qui à présent ravagent les villes allemandes sans épargner les civils. Le jeune couple en convient sans difficulté. Avant qu'ils ne replongent dans la fournaise, je tiens à les traiter à dîner et au dessert, je leur remets un petit souvenir, un livre de Thomas Mann, Le problème de la liberté, que le prix Nobel a écrit à Küsnacht, près de Zurich, et qu'il m'avait dédicacé. La jeune femme me remercie d'un sourire qui reste gravé dans ma mémoire, et son compagnon ajoute « Ce que vous venez de nous offrir avec ce voyage aux États-Unis restera comme une page lumineuse de notre histoire allemande. » En d'autres temps, je me serais lancé dans une longue péroraison, et comme les Allemands l'aiment tellement, j'aurais prêché la concorde, la paix revenue, la grandeur de nos patries respectives. Mais les épreuves de ces derniers mois m'ont rendu les grands discours odieux. Je me borne à serrer dans mes bras Ulrich et Regina, un peu comme le font les Français et les Arabes. Ils se laissent faire, sans recul ni réticence. Nous ne reverrons peut-être jamais, ou alors ce sera un moment enchanteur. Le lendemain, alors que sans doute ils auront regagné l'Allemagne, la radio de Genève annonce la chute d'Avranches qui libère la route de la Bretagne. Le général Patton s'y engouffre et, dans les jours qui suivent, les petits drapeaux se déplacent à toute vitesse sur la carte que j'ai placardée dans ma chambre à coucher. Dans sa course vers Brest, puis Argentan, le fougueux Californien réussit l'exploit de parcourir un millier de kilomètres en 2 semaines. Il fit mieux que Guderian et Rommel et, bien que peu versé dans l'art de la guerre, je me prends d'admiration pour un homme qui, finalement, épargne des vies par centaines de milliers. Si le putsch contre Hitler réussit, les combats cesseront avant la fin de l'été 1944. Les soviétiques n'entreront pas en Allemagne et je reverrai bon nombre de mes amis. Chaque jour, je tends l'oreille au communiqué, impatient d'une heureuse annonce. C'est le 20 juillet, dans la soirée, que me parvient enfin la bonne nouvelle. Monica me demande au téléphone et d'entrée de jeu m'annonce la mort d'Hitler. Je sens une lente et forte houle me submerger, mais je retiens mon bonheur et m'enquiers de la suite. Les conjurés ont-ils arrêté les proches du Führer ? Qu'en est-il d'Himmler, que tout le monde s'accorde à tenir pour le plus dangereux? Canaris a-t-il franchi le pas? Et Rommel? Une première réponse est donnée de Paris. Le général von Stuppnagel, commandant militaire de la France occupée, a fait arrêter un millier d'officiers SS, parmi lesquels Karl Auberg et Helmut Kolchner. Je garde un souvenir précis du premier, que les résistants français appelaient le boucher de Paris, et qui a pris ses fonctions de chef de la police en France au moment où Reinhard Heydrich était assassiné à Prague. Je ne sais rien de Knocher. La nouvelle de leur incarcération me cause une grande joie, mais celle-ci n'est que de courte durée. À peine quelques heures plus tard, la nouvelle de l'échec de l'attentat se répand sur les ondes et dans les salles de rédaction. Comme il fallait s'y attendre, la chasse aux traîtres est également claironnée, les arrestations changent de camp, les premiers suicides interviennent. Je prends la défaite, car c'en est une, avec d'autant plus de stupeur et d'accablement que les premières annonces m'avaient fait bondir de joie. Je reste prostré à mon bureau, interdis ma porte et ouvre le tiroir où je range soigneusement mon pistolet Herstal. Stupeur, il n'y est plus. Je fouille, vide le contenu sur la table, rien, il a disparu. La disparition de l'objet me perturbe car je n'ai aucune explication. Du coup, l'envie du suicide qui m'avait saisi s'estompe et je me force à réfléchir à ce que j'ai bien pu faire pour l'égarer. Rien n'est plus angoissant que de perdre une arme, une menace de mort. Et les scènes auxquelles j'ai assisté à Theresienstadt d'exécution sommaire des prisonniers m'auraient convaincu, s'il avait fallu, de l'excessive facilité que confère à une personne la détention d'une arme à feu. Je me creuse par conséquent la cervelle pour reconstituer mes faits et gestes de ces derniers jours. Je me souviens parfaitement d'avoir vérifié à mon retour des États-Unis que le Herstal n'avait pas bougé de mon tiroir. Mais pour la suite, c'est le trou noir. J'ai renoncé à me tracasser plus avant, même si une sourde inquiétude me taraudait encore de temps à autre quand l'explication me revient dans un rêve. C'est un de ces cauchemars qui rythment désormais mes nuits qui m'apporte l'explication. Alors que nous partions pour notre rendez-vous de Genève, Monica, pour une raison que j'ignore, a placé l'arme dans son sac à main et l'a emportée avec nous. La chose me paraît étrange, si étrange que je n'hésite pas à téléphoner le lendemain à mon ami. « Monica, crois-tu à l'oniromancie ?» À la science des songes? Oui, un peu. Dis-moi, pourquoi cette question? Imagine que j'ai égaré mon pistolet Herstal, il ne doit pas être bien loin d'ailleurs, eh bien, cette nuit, j'ai rêvé que c'était toi qui t'en étais saisi. C'est exact? Comment cela, c'est exact? Tu confirmes mon rêve? Tout à fait, et je vais même t'expliquer pourquoi. Lorsque nous sommes revenus des États-Unis, j'ai pensé qu'il était imprudent de nous rendre à ce rendez-vous de Genève, les mains dans les poches. Je n'ai pas oublié les énormes difficultés de ton exfiltration d'Allemagne. Donc, alors que tu étais déjà monté dans la voiture, j'ai prétexté un oubli, je suis rentré dans ton bureau et j'ai pris l'arme. Tu aurais pu m'en parler tout de même. C'est vrai, mais je ne l'ai pas fait devant le chauffeur et ensuite, cela m'est sorti de la tête. Rassure-toi, demain, ton bien te sera restitué. Nous raccrochons, moi rassuré, Monica soulagée de se voir aussi facilement pardonnée. Nous n'en avons cependant pas fini avec cette histoire de pistolet. Monica n'est pas au rendez-vous du lendemain, ni le surlendemain. J'essaie de contacter Masson, en vain. C'est 3 jours après notre conversation que je reçois la visite d'un commissaire de police de Lausanne qui, fort cérémonieusement, demande à me parler très personnellement. Intrigué, mais sans méfiance, je le fais entrer puis asseoir dans mon bureau et m'enquiers de l'objet de sa visite. « C'est très simple, monsieur le comte. Reconnaissez-vous ceci ?» Il sort de sa poche un pistolet Herstel que je reconnais sur le champ. « Parfaitement, c'est mon pistolet. Mais puis-je vous demander comment ?»« C'est très bien que vous l'ayez reconnu spontanément. Cela me donne à penser que peut-être vous n'êtes pour rien dans le drame qui vient de se dérouler. Un drame ? Un assassinat, si vous préférez. Le conseiller Ducreux a été abattu à l'aide de cette arme. Aucun autre indice. Il était seul chez lui quand ses domestiques l'ont découvert avant-hier matin. Le connaissiez-vous ?
Oui,
je le connaissais. C'était un homme que j'estimais beaucoup. Que vous estimiez ?
Oui, que j'estimais.
Lui et sa femme, d'ailleurs. Que vous fréquentiez assidûment. Vous avez fait un voyage en sa compagnie récemment, n'est-ce pas ?
Oui, aux États-Unis.
Aux États-Unis ? En cette période de guerre ? Vous deviez avoir des raisons impérieuses pour quitter la Suisse. Monsieur le commissaire, autant que vous le sachiez, Madame Ducreux travaille sur certains dossiers pour moi. Elle me conseille et je la rétribue, c'est tout. N'allez pas chercher d'autres raisons à nos rencontres. Je ne cherche rien, monsieur le comte. Dites-moi seulement où vous vous trouviez dans ces dernières 48 heures. C'est très facile, ici même, dans ma banque, et un peu en ville. Des dizaines de personnes peuvent en témoigner. Tant mieux, cela m'aurait ennuyé de vous interroger sur ce crime. Pouvez-vous me donner quelques noms ? Je griffonne une liste que je tends à mon aimable commissaire. Il la lit et de l'index pointe un patronyme. Cette dame n'est-elle pas juive ?
Oui, juive et tchécoslovaque.
Une femme très bien. C'est encore une bonne chose pour vous. Le procureur de la Confédération est juif. Et comme c'est lui qui a pris l'affaire en main, j'hésite puis me décide à poser la question. Puis-je vous demander ce qu'est devenue Madame Ducreux ?
Disparue.
Mais il baisse la voix. Ceci est très compliqué. Ce sont les services secrets qui se chargent de l'affaire. Il se pourrait qu'elle ait été enlevée.
Enlevée, Monica ?
L'air étonné du commissaire me convainc qu'il vaut mieux en rester là pour aujourd'hui. Je l'installe dans un bureau pour qu'il auditionne mes employés sur mon emploi du temps et je me précipite au téléphone. Faisant fi des consignes très strictes qu'il m'impose et s'impose du même coup, je rappelle Masson. Bien entendu, je ne peux le joindre et dois me rabattre sur un de ses adjoints qui promet de me faire rappeler par le colonel dès que possible. Je ne peux pas me contenter de la réponse laconique du brave collaborateur de mon officier traitant et je décide, sur le champ, de partir pour Lausanne.